Je vous inviterai tout de suite à ouvrir vos Bibles à l'Épître de Colossiens, le premier chapitre. Vous m'entendez bien? Parfait. Lorsque j'étais jeune, je m'en souviens d'une journée où j'étais en conflit avec mes parents. Comme ça, ça arrivait de temps en temps, là. Si on est très honnête, c'est arrivé. Je ne sais même pas la raison pour laquelle j'étais en conflit avec eux, mais c'était assez important. Il y avait comme de la tension autour de la maison. Fait que cette journée-là, à place de me punir, ce qui était arrêté la juste chose à faire, mes parents ont décidé qu'on va aller dans les montagnes, conduire un petit peu pour sortir de la maison, pour que la tension apaise un peu. Et lorsque j'étais là, dans l'arrière, dans le camion de mon père, j'étais en train de bouder le conflit, la raison, je sais pas, mon père, hors de grâce, s'est tourné puis m'a regardé. Puis il a demandé si je voulais conduire son camion, là. Si je voulais m'asseoir sur son genou, puis le conduire. Fait que, tout d'un coup, j'ai passé d'un jeune enfant en train de pleurer, avec un visage plein de joie, de cette grâce que mon père m'a accordée dans ce moment-là. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a vraiment aidé la situation. Cette don de grâce qu'ils m'ont accordé était bien placé, puis ça a changé. Une jeune enfant fâchée. Il a rendu plein de grâce et de reconnaissance envers ce don-là. J'avais comme peut-être 10 ans à cette époque, mais je m'en souviens toujours de cet acte de grâce que mon père m'a fait. Parce que si on est honnête, c'est une des rêves de tous les jeunes hommes de conduire un truck, là. Et c'est ce changement de cœur, à cause de cette grâce, c'est arrivé, c'est quelque chose de similaire s'est produit dans l'église de Colosse. Dans cette épître qu'on va lire, en Colossiens, Paul est en train de faire des remarques de reconnaissance envers Dieu pour la grâce qu'il a faite parmi eux, qu'il leur a transformé des pécheurs en rébellion contre lui à du monde qui sont pleins de joie, pleins d'amour, pleins d'espérance et de foi. Et c'est ça ce que la grâce fait. Donc cette lettre, cette section au moins de ce matin, c'est des paroles de reconnaissance que Paul a vers Dieu. Donc, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse lire cette courte introduction aux Colossiens. On va lire les 8 premiers versets de l'Épître. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Prions. Seigneur Jésus, liant dans ta parole une puissance sanctifiante. Ta parole seule peut transformer des pécheurs rebelles en des serviteurs fidèles et remplis de grâce et de reconnaissance. Lorsque ça continue à travailler pour l'avancement de ton royaume. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as déjà accomplie dans nos vies et que tu vas continuer d'accomplir par ta grâce. Glorifie-toi dans cette grâce qui transforme nos vies par l'Évangile. Sois avec nous cet après-midi lorsque nous entendons ta parole. Que ta parole accomplisse ton œuvre dans ton peuple. Amen. Je vous invite à vous asseoir. L'attitude fondamentale du chrétien envers Dieu devrait être un de reconnaissance. Dans notre texte ce matin, Paul montre exactement en quoi cela ressemble. Alors que lui-même est en train de donner reconnaissance à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite dans les vies, dans tout le monde qui s'attend à l'église de Colosse. Malgré toutes les difficultés que cette église est en train de vivre. C'est une église que Paul lui-même n'a pas fondée, mais en font par contre des fruits de son ministère. Dans cette église, Epaphras a amené des nouvelles. Il y a des docteurs dans l'église qui sont en train d'enseigner des mauvaises choses, qui sont en train de dérailler l'église. Des choses, des personnes qui veulent mettre quelqu'un d'autre ou un autre enseignant plus haut que Jésus pour réduire sa suprématie. Ou d'autres ouvrages nécessaires, ils vont ajouter à l'ouvrage de Jésus pour réduire sa suffisance sur la croix. Donc cette lettre, ça sert ultimement de correction. D'un côté, d'un encouragement pour l'œuvre déjà accomplie, et de l'autre côté, une correction pour qu'il puisse être protégé, parce que Dieu protège son Église. Donc c'est ça la lettre des Colossiens, pour essayer de protéger la suprématie et la suffisance de Christ dans toutes choses. Par contre, dans ce texte de matin, c'est quand même à l'introduction. On n'est pas nécessairement rendu dans la viande de cet épître. C'est des paroles d'encouragement qu'il donne en premier. Mais il ne les félicite pas pour les bonnes choses qu'eux autres ont faites. Il ne les félicite pas pour l'intelligence, la sagesse qu'ils ont exercée ou les fruits qu'ils ont produits eux-mêmes. Ce sont des paroles de reconnaissance envers Dieu en premier. Parce que c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est Dieu qui produit les fruits de la foi, de l'amour et de l'espoir dans les cœurs des gens qui sont parmi l'Église. Mais ça sert également de paroles d'encouragement pour qu'on persévère au travers des différentes difficultés dans nos vies. Lorsqu'on persévère au travers des faux enseignements ou des moments difficiles, on peut se fier sur un Dieu qui nous protège, qui nous encourage dans l'Évangile. Parce que Dieu accorde à son Église de la grâce sur grâce, même qu'on ne la mérite pas. Ce sont des grâces qu'on ne va jamais pouvoir repayer. Des choses qui nous donnent, qui vont rester avec nous. On peut lui rendre uniquement de la reconnaissance. Ça pousse les croyants à glorifier encore leur Dieu pour la grâce qu'ils ont reçue. Et surtout dans cette église, ça les a poussés à être tellement reconnaissants envers Dieu qu'ils aiment, qu'ils sont connus par leur amour. Ils sont connus pour l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Et c'est ça l'effet de la grâce dans la vie chrétienne. Et l'effet de la grâce dans la vie d'une église. La grâce agit comme un levain dans du pain. Lorsqu'elle est bien comprise, lorsqu'elle a fait le tour, lorsqu'elle est dans l'église, ça pousse, ça gonfle. Et ça va pouvoir nourrir plein de monde lorsque ça prend de l'ampleur. C'est ça l'effet de la grâce. Nous devons être ce matin, alors, cet après-midi, reconnaissante envers Dieu. Et on devrait s'accorder avec les paroles de Paul à deux égards. Premièrement, nous devrions monter les mêmes prières à Dieu pour les fruits qu'il a portés dans d'autres personnes dans l'Église ou dans d'autres Églises. Parce que lui, son ouvrage, c'est pas restreint ici, mais c'est tout partout. L'œuvre est continuellement en œuvre. Et deuxièmement, nous devrons être reconnaissantes envers Dieu pour les grâces qu'il porte dans nos propres vies. Parce que la vie chrétienne, c'est la grâce et l'énergie de la vie chrétienne qui nous pousse à produire des fruits qui sont dignes d'un Dieu qui sauve. Parce que Dieu accorde la grâce à son peuple. Elle est non pas efficace au salut, mais c'est efficace à la sanctification, à la transformation de son peuple. La grâce qui produit des fruits dans les vies des croyants nous transforme de ce que nous étions avant, c'est des pécheurs rebelles, à des ouvrages pour la gloire de Dieu. Donc cet après-midi, le plan de ce matin, c'est qu'on va suivre les paroles de reconnaissance de Paul lorsqu'il remercie Dieu pour tout l'ouvrage, l'effet de l'Évangile dans l'Église. Les versets 3 et 8, c'est une seule phrase en grec, une expression. Donc, le point numéro 1, c'est reconnaissant que la grâce soit venue. Et c'est là où nous allons voir que la grâce a été manifestée dans l'Évangile de Christ et qu'elle est arrivée dans l'Église avec efficacité, avec puissance. Et le deuxième point, c'est reconnaissant que la grâce porte ses fruits. C'est une réalité inévitable. Si la grâce de Dieu est réellement arrivée, si elle est réellement comprise, ça produise des fruits. ça a un effet en nous, ça nous transforme tranquillement. Ce qui nous amène au troisième point, la reconnaissance que la grâce continue à se répandre. Nous avons vu 2000 ans maintenant de l'histoire de l'Église où la grâce de Dieu a été à l'ouvrage pour continuer à sanctifier, à produire, à établir son Église pour qu'elle puisse porter des fruits et en multiplier. La grâce n'est pas immobile. Lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est reçue, il y a un effet. Et cet effet, nous devons être profondément reconnaissants envers Dieu pour cela. Parce que c'est ultimement, uniquement lui qui fait l'ouvrage. Uniquement lui va recevoir la gloire pour cet ouvrage, les choses, toutes les choses qui sont bonnes en nous. C'est parce que Dieu l'a mis là, il l'a produit en nous par sa parole. C'est parce qu'il faut être reconnaissant, il faut s'en rappeler toujours de cette grâce. Parce que la tendance qu'on a, si on est honnête, c'est de l'oublier. Lorsqu'on voit toutes les bonnes choses, tiens, je suis une bonne personne, j'aime les autres, puis tout ça, la tendance de dire, c'est que c'est moi qui les produise. C'est moi qui fais toutes ces choses, c'est moi qui exerce l'amour, et on oublie Dieu. On oublie que c'est ultimement lui qui a œuvré la transformation dans nos cœurs pour que cela soit la réalité. Donc, c'est pour ça que la posture fondamentale d'un chrétien devrait être la reconnaissance pour l'ouvrage de Dieu, lorsqu'il a dispensé librement sa grâce sur de ses enfants. Donc, commençons d'abord pour la révélation, la manifestation de la grâce de Dieu au travers l'Évangile. Dans toute l'histoire de la rédemption, tout le drame de l'histoire, depuis le jardin jusqu'à la croix, cela sert ultimement à révéler les attributs de Dieu, de révéler qui il est, de révéler sa puissance, comme Henri lit en Romains, sa sagesse, sa puissance créationnelle. Et ultimement, ça sert réellement à révéler sa grâce qu'il accorde à son peuple, qu'il accorde à nous, des faibles pécheurs, sans laquelle nous n'aurions aucun espoir devant un Dieu qui est trois fois saint. L'Évangile est arrivé à Colosse, et cela a fait partie des fruits du ministère de Paul. Epaphras, celui qui a établi cette église, celui qui est probablement le pasteur de cette communauté, et était probablement converti à cause du ministère de Paul. Parce que présentement, pendant l'histoire, Paul est en prison. Ce n'est pas lui qui est en train d'amener la parole régulièrement dans cette église. C'est Epaphras qui a pris le voyage jusqu'à Rome pour amener Paul les informations de qu'est-ce qui arrive dans l'église, qui avait besoin d'aide. Et le fait même que Paul soit dans la région pour que Epaphras soit converti pour établir une autre église, cela c'en est une grâce même. Acte 16, 6. On lit que, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays des Galaties. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a voulu finalement qu'il se dirige justement vers Éphèse, où Epaphras entendrait la parole, qu'il soit converti, qu'il établisse une autre église. C'est la grâce de Dieu que tout cela s'est produit. C'est quand même que l'Évangile est arrivé là plus tard. Dans la souveraineté de Dieu, ce n'était pas tout de suite. Et ultimement, c'est pour la bénéfique de cette Église que c'est produit de même. Au verset 5, Paul appelle l'Évangile la parole de vérité. C'est une expression très bien connue dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres. On lit en Éphésiens 1, 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promise. L'Évangile de notre salut, elle arrive avec puissance. Elle nous scelle avec le Saint-Esprit. Et c'est par cette foi que ça vient, c'est la foi qui vient par ce qu'on entend. Lorsqu'on entend les promesses et les ouvrages magnifiques de notre Dieu. Nous voyons également ici une autre grâce. C'est la grâce de la révélation. Parce que pour croire, il faut vraiment entendre la parole elle-même. Si on n'a pas entendu l'Évangile, On ne peut pas croire. Parce que c'était caché des philosophes. L'Évangile, c'est pas quelque chose auquel on peut arriver naturellement par la réflexion, l'étude de la nature ou autre. C'est par la révélation spéciale qu'on puisse arriver à connaître qui est Dieu et de connaître c'est quoi la grâce qu'il nous a accordée en Christ. Au verset 6, Paul mentionne aussi que l'Évangile n'est pas seulement parvenu à l'Église, mais qu'elle a été ici. Était également compris par eux. Ils ont compris l'importance de la grâce. Je vous lis verset 6. Il était au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Leurs fruits qu'ils ont portés, ça découle en premier de leur compréhension de la grâce de Dieu. Elle a apparu lorsqu'on entend parler des ouvrages puissants de Dieu. Les ouvrages puissants que Christ a accomplis, surtout sur la croix. Et des œuvres que nous n'aurions jamais pu accomplir nous-mêmes. La grâce nous montre à la fois notre péché. Et nous conduit vers un Seigneur, un Sauveur qui est puissant et qui peut sauver des pécheurs indignes comme nous. Mais la grâce, la croix, tout ça, c'est pas une moyenne nous-mêmes, c'est pas une moyenne que nous, on peut atteindre Dieu par nos propres forces. C'est pas que Christ nous a rendu capables de sauver nous-mêmes. C'est pas ça la croix. C'est pas une espèce d'énergie ou de power-up, si on veut dire, pour que nous-mêmes, on puisse atteindre Dieu. Il y a plein de manières que la croix peut être mal comprise, que la grâce de Dieu peut être abusée. Certaines vont entendre parler de la croix puis vont voir un gain personnel. Mais des manières à la manipuler, comme si c'était une échelle pour atteindre Dieu. Moi, j'ai grandi dans une ville de bûcherons. Et souvent, j'avais vu des compétitions forestières par des bûcherons. L'une de ces compétitions, ça consiste de voir qui peut monter une arbre la plus vite. Ça, c'est cool comme compétition pour voir. Ils ont des souliers spéciaux avec des talons, puis ils ont un strap, puis ils montent assez rapidement. Ils montent 100 pieds. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait voir la croix? Comme une chose qu'il faut grimper par nos propres forces, comme que c'était une échelle pour atteindre Dieu? Un des problèmes avec cette compétition, c'est qu'avec l'arbre, il y a une limite. Si tu cours, si tu vas trop vite lorsque tu montes l'arbre, tu vas passer jusqu'en haut et tu vas tomber à ta propre ruine si tu utilises la croix de telle manière. C'est comme ça qu'il faut être prudent lorsqu'on entend parler de la croix et de la grâce de Dieu. C'est parce qu'au contraire de nous montrer une manière pour laquelle on peut grimper nous-mêmes, la grâce de Dieu devrait nous pousser à ce qu'on soit à genoux devant cette même croix. Devant une posture d'humilité, de reconnaissance envers un Dieu qui descend vers nous et pas le contraire. Et voilà la vérité de l'Évangile. Que c'est tout par la grâce de Dieu. Que c'est par un Dieu qui s'est descendu à nous. Et qui nous sauve des humbles pécheurs. Dieu seul reçoit la gloire pour notre salut. Et ce n'est pas un outil pour nous-mêmes pour essayer de se sauver. Ce n'est pas un tour de Babel 2.0 où les hommes ont essayé de construire quelque chose pour se rendre à Dieu. Mais c'est ultimement la puissance de Dieu, pour la gloire de Dieu. Comme Paul dit en Romains 1.16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif premièrement, puis du Grec. » Dieu lui-même se glorifie par la révélation et l'application de la grâce à tous ceux qui croient. Cette puissance transformatrice est parvenue aux Colossiens avec intelligence. Une intelligence spirituelle, ils ont reçu puis ils ont compris Paul ne les félicite pas par contre pour cet ouvrage. Il ne les félicite pas parce qu'ils étaient plus sages que les autres. Il ne les félicite pas parce qu'ils étaient plus intelligentes. Mais c'est ultimement par la grâce de Dieu que la grâce elle-même a été comprise dans le peuple. Parce que c'est Dieu même qui plante les graines et c'est lui qui va la faire pousser. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses à son peuple. Parce que la puissance est dans le message. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est de ma parole, de sorte qu'il sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La puissance de l'Évangile ne demeure pas dans le messager, mais ça demeure dans le Dieu en arrière, le Dieu dont ce message parle de. Parce qu'elle révèle la grâce, comme qu'on a lu tantôt en 2 Thessaloniciens, que la puissance est dans la parole et que ça est reçu dans l'Église. Et la grâce, ça produit la reconnaissance dans les cœurs de tous ceux qui l'entendent. Tout comme le don qui était placé et qui suscite la reconnaissance. Et cette reconnaissance, la révélation de cette grâce agit encore plus profondément dans les cœurs des croyants. Elle a non seulement le pouvoir de sauver, mais elle a également la puissance de transformer pour qu'elle produise des fruits dans nos cœurs. Ce qui m'amène au deuxième point. Lorsqu'on va voir pourquoi Paul est reconnaissant envers Dieu pour les grâces, les fruits de l'Évangile. C'est qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, un feu sans chaleur, des nuages sans pluie, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à son but. R.C. Sproul a bien résumé les paroles de Jésus qu'il a dit à Matthieu 7,16, lorsqu'il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non à leur profession. » C'est parce que c'est les fruits qui démontrent la validité ou l'authenticité de la transformation intérieure qui a lieu parce que la grâce de Dieu est arrivée. Parce que c'est vrai que tout homme porte des fruits, mais pas tous les fruits qu'on porte sont désirables ni voulus par Dieu. On est influencé par tout nos milieux, on est influencé par les choses qu'on pense, mais les choses qu'on croit, c'est ça qui influence profondément les fruits qu'on va porter. Le terrain dans lequel on est planté va déterminer les fruits qui vont être portés. La qualité, la quantité. Comme Jésus l'a dit, seulement des bons arbres vont porter des bons fruits. Seulement les arbres enracinés dans la grâce de Dieu vont porter des fruits en fonction de cette même grâce. Mais c'est ultimement Dieu qui porte ces fruits. Il n'y a aucun fruit que nous-mêmes, on porte par nos propres forces, mais c'est la grâce qui travaille, qui nous transforme, qui nous change des mauvais arbres à des bons arbres qui sont enracinés dans la grâce de Dieu. Et il faut de la reconnaissance pour ces fruits, à chaque moment de nos vies. Imagine un ingénieur qui est en train de construire une machine, qui passe des mois à travailler le modèle 3D de l'ordinateur, qui fait la conception, les calculs. Il passe du temps à faire la code, il commande les pièces, il coupe, il met tout ça ensemble pour produire une machine qui va faire des pièces. Imagine que lorsque la première fois cette machine est allumée, qu'elle produit sa première pièce, qu'il y aurait sur l'écran un petit message qui est écrit de la part de la machine, « C'est moi qui a produit cette pièce ». Bien, évidemment que ce n'est pas le cas. Évidemment, la machine, ça sert d'outil dans les mains de l'ingénieur pour produire, pour réaliser son plan. C'est même lui qui a connecté l'électricité nécessaire pour qu'elle fonctionne. Et de la même manière, les fruits que nous produisons sont ultimement Dieu qui les a construits, qui nous a donné l'énergie nécessaire par la grâce pour qu'elles soient produites. Mais il faut être prudent ici aussi. Ce n'est pas la quantité ou la qualité des fruits qu'on porte qui détermine la validité de notre foi, mais juste sa présence. C'est vrai que les machines, après du temps, elles peuvent améliorer, on va faire des améliorations, ça va plus de pièces, des meilleures pièces. Cela arrive naturellement avec le temps. Mais pour savoir si c'est une vraie machine, il faut qu'il y ait juste des pièces. Fait que, sois pas découragé si vos fruits ne sont pas en abondance. Mais il faut faire une évaluation sobre pour voir s'ils sont vraiment, véritablement, des vrais fruits qui sont en fonction de l'Évangile, sont en fonction de la grâce si vous les avez reçus. Mais quelles sont les grâces? Quels sont les fruits en question? Paul, dans cette lettre, il est reconnaissant à Dieu pour les trois fruits en particulier qui sont tellement évidents dans l'Église de Colosse. Ils sont l'espérance, la foi, l'amour. Trois grâces qui sont toutes partout dans le Nouveau Testament. Donc, on va commencer par le fruit de l'espérance. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. L'espérance est le fondement de toute chose, le fondement de ses fruits. La foi et l'amour sont enracinés, comme notre texte dit dans l'espoir. Un espoir qui est réservé pas sur terre. Un espoir qui dépasse la terre, qui est réservé dans les cieux, qui nous attend, qui est protégé, ne peut pas être enlevé par des voleurs, ne va pas rouillir. C'est une espérance pour la vie éternelle. Une espérance impérissable. Une espérance qui n'est pas en nous, mais qui est ultimement en notre Dieu. C'est ça l'espérance chrétienne. De passer où Christ a passé. D'être uni avec lui dans la vie éternelle. Une espérance qui se repose sur l'œuvre accomplie par Christ. Là, aujourd'hui, on a un certain avant-goût. Si vous êtes en lui, vous avez des débuts de cette vie éternelle. Mais l'espoir, c'est la pleine réalisation de cet espoir qui vous attend. Lorsqu'on est complètement uni avec notre Dieu, le Dieu de notre salut. Le chrétien est rempli d'espérance et le chrétien qui connaît et qui a compris les promesses de Dieu. Celui qui les chérit profond dans leur cœur. Les promesses qu'il nous a données toutes partout dans la parole, non, surtout ceux qui ne vont pas nous abandonner, qui ne vont pas nous laisser. Mais encore plus, les promesses qu'il nous donne dans les alliances qu'il a faites avec nous en Christ. Il ne nous a pas seulement fait des promesses qu'il n'était pas en mesure d'accomplir lui-même. C'était pas lui possède l'autorité et la capacité d'accomplir toutes les choses qu'il dit qu'il va faire. La semaine dernière, on a un petit groupe de lecture. Nous sommes tous des théologiens, on lit ça à l'Église. Et dans ce chapitre, il y avait une phrase qui m'a vraiment marqué. R.C. Sproul dit, « Dieu n'a pas simplement énoncé sa promesse. Cette promesse a été incarnée dans la parole, qui est le Christ. » C'est lui la preuve de notre espérance. Que les promesses de Dieu ne vont pas juste demeurer des promesses, mais elles vont être réellement accomplies parce que cette promesse a pris chair et a marché parmi nous. Mais ce n'est pas la fin. Il y en a encore plus. Là où Christ est allé, on va le suivre. On va aller avec lui. Vous avez déjà passé par la mort avec lui. Vous avez déjà passé le début de la résurrection avec lui. Mais lui, il est monté au ciel. Et c'est ça notre espérance, qu'on va le suivre pour notre pleine union avec lui. Il y a un héritage qui attend les croyants. Un héritage éternel qui ne peut pas être enlevé lorsqu'on attend la pleine révélation de cet héritage. Cet espoir que le chrétien peut avoir, ce n'est pas quelque chose qui est produit en nous par lui. C'est Dieu qui l'a placé, c'est Dieu qui le cultive et c'est Dieu qui le produit en nous. 1 Pierre 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la résurrection de Christ qui est notre source d'espérance, qui nous anime d'exercer cette espérance dans la vie éternelle. Et c'est quand même une grâce elle-même. C'est une grâce parce que l'espérance nous pointe, nous pousse de regarder vers quelque chose d'autre qui n'est pas nous-mêmes, de regarder vers Dieu, de mettre notre confiance dans un Dieu à l'extérieur de nous-mêmes et ultimement dans les promesses de ce Dieu-là. Le Dieu qui ne va pas mentir, le Dieu qui va accomplir toute sa parole. Si vous avez cette espérance, dans la vie éternelle, d'être uni avec Christ, qui est votre Sauveur, vous pouvez avoir une assurance que vous êtes chrétien. C'est une grâce que Dieu nous donne, qu'on peut avoir cette assurance. Et Paul en est très reconnaissant pour cette grâce qui était présente dans l'église de Colosse. Mais cette espérance, ça produit également la foi. L'espérance regarde vers l'avenir. La foi regarde vers l'arrière. La foi dans l'ouvrage accompli, complété par Christ. Quelque chose d'objectif sur laquelle on place notre espérance. Et c'est ça la deuxième grâce qui est présente parmi l'Église. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Et c'est ici cette question de la foi en Christ, où toutes les différentes hérésies qui circulent dans l'église de Colosse y touchent. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, qui sont en train d'enseigner que ce que Jésus a fait n'était pas assez, qu'il manquait de quoi, qu'il faut ajouter vos propres œuvres à son œuvre pour essayer de dérailler ou réduire Christ. Mais nous devons avoir une pleine confiance que son ouvrage était complète. Qu'il manque rien. Qu'il a bu la coupe complète de la colère de Dieu. Que son mort était une mort efficace. Une mort propitiatoire pour gagner le salut de son peuple. Il a bu chaque goutte de ce tasse. Il n'y a rien d'autre qui est nécessaire. Rien qui doit être ajouté à son sacrifice. Rien qui doit être enlevé non plus. Jésus nous suffit. Il nous suffit pour toute chose. Et nous devons reposer sur lui. Nous mettre notre confiance, notre foi et notre espérance en lui, dans son ouvrage complète. Mais cette foi même, là, cette foi qu'on peut exercer en lui, ça découle de la grâce. Et c'en est une grâce elle-même. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce du salut et la foi pour le salut, c'est des grâces. Les deux sont des grâces, des dons de Dieu. Elles ne sont pas produites par nous-mêmes, mais elles découlent de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce qui transforme nos cœurs pour qu'on puisse passer des pécheurs rebelles contre Dieu à des serviteurs pleins de reconnaissance dans son œuvre qui nous transforme. Donc vous aussi, si vous avez mis votre espérance complète en Christ pour votre salut, vous pouvez également avoir une assurance que vous lui appartenez, que vous faisiez partie de son peuple, que la grâce a transformé vos cœurs pour qu'il puisse lui faire confiance. Enfin, nous arrivons à la grâce de l'amour, qui agit dans les temps présents, aujourd'hui. L'amour qui s'exerce vers nos frères et sœurs, vers tous les saints de l'Église et les autres Églises. Le chrétien qui a placé son espérance dans la vie éternelle à venir et sa foi dans l'ouvrage de Christ accompli dans le passé va être tellement reconnaissante envers Dieu pour la grâce qui lui a été montrée. Qui va être transformé pour agir en amour vers ceux qui sont autour de lui. Ça va devenir une fontaine d'amour qui sort naturellement, de la vie éternelle qui sort, qui est transformé par la grâce. 1 Jean 4, 19 à 20. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça. Il nous a aimés le premier. C'est qui qu'on dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour de Dieu sert en quelque sorte d'un catalyseur dans les vies des chrétiens. En chimie, il y a un catalyseur, ça sert pour aider, pour produire une réaction qui ne se produirait pas naturellement ou de temps en temps trop rapide, trop lentement. Et c'est comme ça l'effet de la grâce. L'amour de Dieu qui tombe sur nous produit de l'amour pour les autres. Parce que l'amour qu'on produit nous-mêmes, c'est centré sur nous-mêmes. C'est égoïste. C'est ça, on aime les autres pour nos propres avantages. Mais l'amour de Dieu cherche le bon des autres pour la gloire de Dieu, parce qu'on sait à quel point on ne mérite pas l'amour que Dieu nous a fait, qui est tombé sur nous. Lorsque l'amour de Dieu est arrivé parmi l'Évangile, lorsqu'il est arrivé à l'Église, l'Esprit répand l'amour dans les cœurs des croyants. Une nouvelle œuvre continue ou commence dans les cœurs. La grâce de Dieu naît de l'amour. La miséricorde engendre la miséricorde. Des pécheurs pardonnés vont commencer à aimer de plus en plus les autres. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans l'église de Colosse. Ils étaient connus pour leur amour. Mais donc, l'amour pour les autres n'est pas la cause de l'amour de Dieu envers nous. Mais c'est le contraire. L'amour que Dieu a pour nous est la cause qu'on aime, pour laquelle on aime les autres. Toutes les bonnes œuvres que les chrétiens... toutes les bonnes œuvres du chrétien doivent être enracinées dans cet amour. L'amour pour Dieu en premier. C'est pour cette raison spécifique que les bonnes œuvres des autres qui ne sont pas des croyants, qui n'ont pas eu cette transformation, vont être rejetées par Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans l'amour de Dieu. Ils sont ultimement égoïstes d'une manière et d'une autre. Que ces bonnes œuvres vont leur apporter un certain gain. Mais c'est des œuvres d'amour qu'ils ont réellement motivées par l'amour de Dieu. Que ça va porter la gloire à Dieu. C'est exactement pour laquelle on a été créé. Pour laquelle on a été racheté. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres qui sont véritablement bonnes, les œuvres sont les œuvres qui sont enracinées dans l'amour, qui apportent la gloire à Dieu. Elles ne sont pas la base. Et voici une des dernières grâces pour le croyant. Afin qu'on puisse être reconnaissant pour la transformation qu'il a ouvrée dans nos cœurs. Qu'on puisse faire de ses bonnes œuvres. Qu'on puisse amener l'amour tout partout. Qu'on puisse être connu pour l'amour qu'on a pour les saints. Et toutes ces grâces que Dieu produit dans les cœurs des croyants sont l'évidence de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Un ouvrage qui était évident dans l'église de Colosse. Et Paul rend grâce. Il est reconnaissant pour cet ouvrage, ce changement de cœur. Mais le fait qu'il mentionne ça tout au début, ça donne l'impression, ça implique que ce n'était pas le cas avant. Que sans la grâce, sans l'arrivée de l'Évangile, il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas d'amour. Si je peux donner une illustration pour comprendre, pour que ça soit évident. Si on félicite quelqu'un en leur disant qu'ils ont perdu du poids, techniquement, c'est un compliment. Par contre, presque tout le monde va être un peu offensé par cette remarque. Parce que ça te rappelle de ce que tu étais avant. La grâce fait la même chose. lorsqu'on reçoit la grâce, ça nous rappelle qui on était avant de connaître cette grâce. Avant qu'on a connu l'Évangile. Ça nous rappelle de cette réalité. Lorsque ça nous pointe vers qui nous sommes maintenant aujourd'hui. Francis Burkitt, un théologien, l'a dit de même. De même que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est aussi par sa grâce que nous ne sommes plus ce que nous n'étions pas censés être. Quand je repense à qui j'étais avant de connaître l'Évangile, de connaître la grâce, ça me dégoûte. Tant d'orgueil, tant de convoitise charnelle. Mais par la grâce de Dieu, cela est plus vrai. Cette grâce a couvert mes péchés. Et ça couvre vos péchés. Et c'est ça l'effet transformatrice de la grâce et de l'Évangile. Lorsqu'il nous rappelle de qui nous étions avant, pour produire qui nous sommes aujourd'hui en lui. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Surtout de ce côté de l'amour. Mais nous pouvons avoir une espérance que la transformation qui se produit dans nos cœurs va arriver à un fin. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà un des autres éléments de l'espérance chrétienne. Que le péché auquel on lutte quotidiennement va être enlevé, qui va avoir un fin à cette transformation, que Dieu va achever son œuvre en nous. Et encore plus, les fruits qui vont être produits par cette transformation vont continuer à multiplier. Il n'y a pas de fin. Ils vont continuer à être de plus en plus nombreux et de plus en plus mûrs pour la gloire de notre Dieu. Et cela va continuer jusqu'au jour, la révélation finale de notre Dieu. Jusqu'au jour de Jésus. Le même Christ qui nous a sauvés par sa grâce nous a donné un don incalculable. L'Évangile, la grâce, la dent ne cesse de donner. Elle continue. Une fois qu'elle est semée dans nos cœurs, ça va continuer à croître tranquillement lorsqu'elle est cultivée par la grâce de Dieu. Qu'elle va continuer à multiplier. Ce qui m'amène à la troisième raison pour laquelle Paul est reconnaissant à Dieu. C'est parce que la grâce a continué de multiplier. Qu'elle se répand toute partout. Parce que dans cette période, Paul est en prison. Ce n'est pas lui qui contrôle la circulation de l'Évangile. Ce n'est pas lui non plus qui la pousse. Il était un instrument, mais il comprend sa place dans le ministère de Dieu. Parce que c'est Dieu qui anime les croyants. C'est l'Esprit qui fonctionne au travers de l'Évangile. Et c'est pour cela que l'Évangile a continué à passer tout partout dans le monde. Jusqu'aux extrémités même de la terre. Versets 6 à 8. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Ce n'est pas Paul qui est la cause de la fertilité de l'Évangile, ni celui qui le contrôle. Il est uniquement un héros, pour un prédicateur de la parole de Dieu. Que la grâce s'en sert de lui pour que l'Évangile puisse être multiplié et passer tout partout. Parce que l'Évangile ne demeure pas sans effet. La grâce de Dieu va agir dans les cœurs des croyants. L'amour de Dieu va conquérir des villes, va conquérir des pays et même des rois. Comme elle a abaissé le roi Nebuchadnezzar qui a rejeté la souveraineté de Dieu qui était puni. Pour manger de l'herbe pendant 7 ans. La grâce de Dieu se répand par les témoignages de ses croyants. Un témoignage fidèle de ceux qui le portent. Dans une bonne manière, c'est comme un virus qui va continuer à disperser dans le corps. Ça passe d'une cellule à l'autre, ça multiplie. Et chaque fois que ça infecte une cellule, ça en produit encore plus. C'est comme ça que l'Évangile est transporté. C'est comme ça qu'elle est répandue tout partout dans le monde. C'est des fruits qui portent des fruits. L'amour qui produit davantage plus d'amour. L'espérance qui produit davantage plus d'espérance. Et la foi qui produit davantage la foi. Par exemple, avec l'Internet, on peut savoir qu'est-ce qui se passe tout partout dans le monde chrétien à la minute près même. Et dernièrement, il y en a eu plein de difficultés de persécution en Nigeria. Lorsqu'on entend les différentes attaques qui sont dans l'Église, on peut entendre de leurs témoignages, on peut voir les fruits de la foi, de l'espérance et de l'amour qui sont présents parmi eux. Et ça nous encourage. C'était Tertullien qui a écrit dans le deuxième siècle que c'est le sang des martyrs qui est la semence de l'Église. À l'église de Saint-Jérôme, à chaque mercredi, dans le courriel de prière, on met un petit point des nouvelles de l'Église internationale pour deux raisons. En premier, pour qu'on puisse prier pour ses frères et sœurs. Pour qu'on puisse prier pour que Dieu les protège, que Dieu leur donne la force et la grâce nécessaires de passer au travers de leurs difficultés. Et en deux, pour que nous-mêmes, on puisse être encouragés et fortifiés par leur foi. Et leur espérance qu'ils ont, qui leur aide à passer au travers de toutes leurs difficultés. Et c'est de même que Paul est encouragé lui-même par la foi qu'il entend parler, qui est présente dans l'église de Colosse. Parce que l'Évangile n'est pas un message local. Elle n'est pas un message qui doit rester dans une certaine région ou un pays. Elle est destinée au monde entier. Dieu a donné son Fils unique pour le monde. Et par son sacrifice, la manifestation de sa grâce envers les pécheurs est rendue visible. Verset 6, Paul dit que la grâce produise des fruits sans fin. Que ça produit constamment des fruits. Et cette fruit n'a pas été restreinte dans la région du Méditerranée. Elle a conquéri l'Empire romain. Ça a passé en Angleterre, tout partout en Europe, c'est rendu dans le Nouveau Monde, jusqu'à nous ici au Québec, 2000 ans plus tard, par le témoignage fidèle des chrétiens. Des chrétiens qui ont porté des fruits qui sont en fonction de la grâce de Dieu. Par le témoignage de ceux qui ont été transformés par le message de l'Évangile. Et nous pouvons être témoins de 2000 ans de l'ouvrage de Dieu dans l'Église. Lorsqu'il travaille parmi nous, lorsqu'il protège son Église pour qu'elle produise encore de plus en plus de fruits. Parce que Christ va bâtir son Église et il n'y a rien qui va l'arrêter. Des fruits vont être produits. La grâce va avoir effet dans le monde, dans les cœurs des croyants. L'amour va gagner. Tant dans les individus que tant dans l'Église au complet. Et voici la puissance des dieux de Dieu qu'il accorde à son peuple, qui nous a donné par sa pure grâce et son amour, qu'il a manifesté envers nous des faibles pécheurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être reconnaissants pour toutes les choses qu'il nous a données. Toutes les choses qu'il a accomplies dans nos vies. Et la vie chrétienne doit être marquée de ces habitudes de reconnaissance. Lorsque nous nous unissons avec les prières de Paul, pour être reconnaissant pour les fruits qui ont été portés dans d'autres régions, dans d'autres églises, la foi qui, et l'amour et l'espérance qu'ils ont cultivés ailleurs, mais aussi de reconnaissant envers Dieu des fruits qu'il a portés dans nos propres cœurs. Lorsqu'on est reconnaissant jour après jour pour chaque chose qu'il nous donne, uniquement hors de sa grâce. Donc, montrez-vous au monde autour de vous, si vous êtes au travail, à l'école ou autre, que vous soyez des témoins des fruits qui sont présents et visibles dans vos cœurs. que les ouvrages de Dieu soient glorifiés et soient magnifiés par vos fruits. À Dieu seul soit la gloire pour ses fruits. Prions. Seigneur Jésus, les paroles ne peuvent exprimer pleinement notre reconnaissance que nous avons envers toi pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Humilie-nous, Seigneur, devant ton trône. Et toutes les choses que tu nous donnes, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Purifie-nous de toutes choses qui pourraient nuire l'avancement de l'Évangile. Afin que ta puissance resplendisse avec éclat en nous, Seigneur. Que ton œuvre fasse ton travail en nos vies. Amen.